Père Bernard Lagoutte, vous êtes à Rome pour les reliques de Louis et Zélie Martin. Est-ce que c'est un couple exceptionnel ?
Non, ce n'est pas un couple exceptionnel. Souvent, on les aborde en disant c'est les parents de Sainte Thérèse, donc on les idéalise, on leur met 36 auréoles derrière la tête. Quand on regarde le quotidien de ce couple, surtout à travers les lettres de Zélie, on se rend compte que Zélie est une femme intelligente, active, très observatrice. On a là des gens qui ont vécu une belle existence humaine, semblable à beaucoup de gens de leur époque. C'est des bons chrétiens, ça, on ne peut pas le nier. Ils ont vécu l'ordinaire et c'est dans l'ordinaire qu'ils ont été simplement chrétiens.
Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé avant à béatifier, canoniser des couples ?
J'ai eu une rencontre il y a quelques mois avec des permanents pastoraux du diocèse de Bayeux. Et on m'avait dit, tu sais, dans le groupe, il y en a un certain nombre qui ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'ils soient béatifiés. Et quand j'ai fait ma petite présentation, et une des permanentes m'a dit, mais vous venez de faire le portrait de mon grand-père et de ma grand-mère. J'ai dit, si vous avez tout compris, parce qu'au fond... Votre grand-père et votre grand-mère sont des saints de l'ordinaire, comme Louis et Zélie. Ce n'est pas des êtres exceptionnels, c'est des êtres ordinaires.
Et justement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été touchées par la béatification du couple Martin.
Oui, il y a des dimensions qui sont peu ordinaires pour nous à notre époque. Louis et Zélie ont eu 9 enfants, ils en ont perdu 4 en bas âge, dont une petite fille Marie-Hélène à 4 ans et demi. Mais la mortalité infantile était forte au 19e siècle. Mais on a une joie de Zélie à chaque naissance. Elle trouve que son bébé est le plus beau. Quand ils apprennent à marcher, elle les décrit, elle est fière, elle les habille bien. Elle est une heureuse maman. Et quand elle a des deuils, elle dit « Je sais bien qu'ils sont au ciel, mais ça m'empêche pas de souffrir. On a une femme très humaine. Louis, à sa manière, paraît plus à distance. Mais justement, dans les deuils et dans les épreuves, on découvre un pauvre homme, déchiré, diminué, qui essaie de le vivre dans la foi.
Est-ce que les couples aujourd'hui, des couples mariés, mais aussi d'autres couples divorcés ou séparés, sont rejoints par le couple Martin ?
Quand on a préparé la béatification, on a eu des objecteurs. Et c'était de dire qu'ils ont vécu dans un autre contexte, dans une autre culture. C'était des riches. Louis Martin savait gérer sa fortune. Il jouait à la bourse, il a gagné beaucoup d'argent avec le Suez, il en a perdu beaucoup avec Panama. Et Zélie était une ouvrière dans la dentelle très active, une petite chef d'entreprise. Oui, ils sont différents de nous culturellement, mais moi ce qui me paraît intéressant, c'est pas l'argumentaire que je développe là-dessus, c'est quand je présente une séquence de la vie de Louis et de Zélie, je vois... les personnes en face de moi être heureuses. Parce qu'au fond, ils ont le sentiment que l'amour humain peut toujours commencer, peut toujours redémarrer, peut toujours reprendre les choses à neuf. Et Louis et Zélie n'en imposent pas par une espèce de modèle qui est dans la stratosphère, qu'il faudrait zapper pour en prendre un petit bout. Non, ça leur parle aujourd'hui. La tendresse de Dieu nous rejoint, ils ont rejoint Louis et Zélie, ils nous rejoignent.
Et vous êtes recteur de la basilique de Lisieux. Comment est-ce que cette béatification a grandi, enrichi les pèlerinages à Lisieux ?
Alors on commence, hein. On est au début du chantier. Mais nous, on est bouleversés nous-mêmes. Parce que ça fait 7 ans que je suis à Lisieux. J'avais le sentiment, quand on a eu le miracle, qu'il fallait faire avancer les choses. Je suis venu me plaindre ici à la congrégation. Mais alors les choses ont avancé. Alors on était bloqués, il fallait obtenir la béatification. Maintenant, la béatification est faite. Et là, on est bouleversé parce qu'il se passe quelque chose dans le cœur des fidèles. J'ai compris que la réputation de sainteté, c'est pas l'idéal qu'ancien de modèle supérieur qui sait gérer, faire les choix. Pas du tout. La réputation de sainteté, c'est qu'après la mort, des hommes et des femmes s'intéressent à vous, vous prient et obtiennent par vous des grâces. Et la cause de Louis et de Zélie a été ouverte en Australie en 1925 par des gens qui se sont mis à prier Louis. Louis était connu à travers les écrits de Thérèse. Zélie n'était pas connu. Zélie n'a été connu qu'à partir de 1940 quand on a commencé à publier ses lettres. Mais il y a eu toute une pression. Et alors, on a beaucoup, beaucoup de témoignages alors qui viennent de tous les horizons. C'est curieux, la grâce du Seigneur n'est pas discriminatoire. Elle choisit tout le monde. C'est assez drôle. Et ça, c'est un peu gênant parce que nous, les vertus, on aimerait en avoir un peu plus, mais non. Et alors, on a eu eu, après la béatification, des témoignages extrêmement forts de couples divorcés qui étaient là, qui en soi pouvaient se sentir à mille distances de Louis et de Zélie, qui n'ont jamais pensé à divorcer. Eh bien, pourtant, ils étaient touchés. Parce qu'au fond, ce qui sauve, c'est pas le fait d'être marié à l'Église ou d'être en état de conforme avec le droit de l'Église ou le droit de la société, c'est la qualité d'amour qu'on a dans le cœur. Et avec Louis et Zélie, on comprend ça.
Vous avez aussi beaucoup fait pour la promotion des reliques de Sainte Thérèse.
D'abord, votre expression n'est pas tout à fait juste. C'est Thérèse qui fait le boulot. Nous, on court derrière. Moi, j'ai le sentiment de courir derrière. Actuellement, les reliques de Thérèse sont au Cameroun. La semaine dernière, j'ai appris qu'il y a eu deux miracles patents que Thérèse a fait au Cameroun. Quelqu'un qui était complètement paralysé, qui s'est mis à marcher et qui continue de marcher, et une femme qui est atteinte d'un cancer et qui dit qu'elle est guérie. Et on va m'envoyer le dossier médical. Ça nous dérange, nous, parce que le surnaturel semble naturel. Alors c'est quand même casse-pied, ça, c'est dans nos schémas. En fait, les reliques de Thérèse, c'est pas le père Hénère de Lisieux, ni son recteur qui serait plus habile et qui en ferait la promotion. Nous, on court derrière. Et avec Louis et Zélie, nous avons le sentiment de commencer. Il n'y a pas de plan préétabli, il n'y a pas un logiciel qui me dit à telle date, tu vas faire telle chose. Si, on sait que le 12 juillet prochain, on va fêter la première fois liturgiquement Louis et Zélie à la date de leur mariage et leur fête de bienheureux. Mais c'est tout. Un centre de pèlerinage n'est pas comme les lieux de grands spectacles, comme le Puy du Fou ou Disneyland, qui organisent des choses et qui attirent des gens. Nous, on est là à accueillir ce qui se passe, bien sûr, pour des moyens audiovisuels, il faut une bonne chorale, on fait de très belles liturgie. Rassurez-vous, je ne suis pas un exalté, mais on touche l'invisible à travers la liturgie.
Vous touchez l'invisible et vous touchez aussi le cœur de milliers de personnes qui ne seraient pas touchées autrement.
Ça, c'est quelque chose d'incroyable, ça. Parce que pour Thérèse, ce n'est pas la carmélite qui est vénérée, c'est la petite Thérèse. Et le mot petite Thérèse, c'est un terme d'affection. Beaucoup de gens nous disent que leur papa, leur maman, ou le grand-père, ou la grand-mère aimaient Thérèse et ils aiment Thérèse. Il y a cette certitude que donne Thérèse dans la confiance que toute prière est exaucée. Peut-être pas suivant les modalités de nos demandes, mais il y a toujours des fruits. Les gens qui viennent à Lisieux ont tous une expérience personnelle de Thérèse, et quand ils vont au fond de l'expérience, elle les conduit à Jésus. Mais quelquefois, elle s'arrête en route. Hein, et les gens n'ont pas été jusqu'à Jésus. Mais il faut que nous, on fasse une catéchèse pour expliquer celui qui est le vivant, qui est l'époux bien-aimé pour Thérèse.
Étonnant ce succès des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, puisqu'elle a déjà parcouru presque beaucoup plus de pays que Jean-Paul II. Beaucoup plus de personnes que Jean-Paul II ont touché les reliques de Thérèse de Lisieux. Comment est-ce que vous expliquez ce feu, cet incendie, entre guillemets ?
Votre question me rappelle deux choses. D'abord, il y a un an, j'étais aux Philippines avec les reliques de Thérèse, et j'ai été 10 jours là-bas, et on a commencé par les lieux de l'aumônerie militaire, l'aviation, la marine, l'armée de terre, la police et l'état-major. Et à chaque endroit, Thérèse a eu un succès fou. On inaugurait un sanctuaire après de l'aéroport de Manille. C'était formidable. Le deuxième exemple qui me vient, quand vous parlez de Jean-Paul II, quand j'ai accompagné les reliques de Thérèse à l'île de la Réunion, il y avait des foules. Et on m'a dit, mais Jean-Paul II n'en a pas vu autant. Et j'ai envoyé une lettre au secrétaire du pape, à Mgr Stanislas Divitch, en leur disant, voilà, je suis là-bas, et Thérèse reçoit plus de gens que Jean-Paul II. Il m'a renvoyé un petit mot gentil pour dire, bah, tant mieux, c'est parfait, etc. Je crois que c'est le message de confiance de Thérèse, hein, même si j'avais commis tous les crimes du monde. Je n'hésiterai pas à les jeter dans le brasier de l'amour. Ça, c'est pris à la lettre. On a sûrement des personnes qui vont vers Jésus à cause de cette folie de la miséricorde.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'Église en France, peut-elle transmettre ce message de confiance et de miséricorde ?
Moi, je pense qu'actuellement, il y a un déficit de communauté chrétienne. Ce qui me peine le plus, c'est que l'expérience de l'Eucharistie s'est perdue. Et c'est pour ça qu'on a moins de communautés chrétiennes. Et les lieux de pèlerinage sont des lieux où on peut faire revivre cette rencontre personnelle de Jésus à travers l'Eucharistie. Et il me semble qu'on est là placé aux premières loges d'une évangélisation. Thérèse, dans un milieu religieux, a fait l'expérience de la rencontre de l'athéisme. Elle en avait eu la sensibilité un peu par une de ses cousines qui allait se marier avec quelqu'un qui était agnostique. Mais elle l'a vécu dans les 18 derniers mois de sa vie. Et ça a été une expérience terrible pour elle. Et elle n'osait pas dire à ses sœurs ses pensées du néant. Alors c'est cela qui frappe. C'est que dans son expérience du néant, de la nuit, elle a continué de croire en la miséricorde de Dieu. Elle a fait tout un chemin spirituel étonnant que devant Dieu, on était aimé. Et la meilleure façon d'être libre pour aimer, c'est d'avoir les mains vides, pas les mains pleines de ce qu'on a fait de bien, des engagements, de la consécration qu'on a vécue, etc., etc. Ni, alors à Lisieux, on en rencontre beaucoup, les mains pleines de culpabilité. Tout récemment, j'ai reçu une femme qui n'était pas revenue depuis 25-30 ans, qui avait une infidélité conjugale, une autre qui avait fait un avortement quand elle était jeune et qui était écrasée. Et avec ces femmes, on a pu chanter, enfin, dire « Le Seigneur fait pour nous des merveilles dans l'instant ». Mais ça, c'est Thérèse.